Mission incontournable animée par Jean-Luc Oumba le Bantou. Chaque mercredi à partir de 14h sur Cheese 94.3.
Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, à Montréal, le déploiement du nouveau train léger du REM, Réseau Express Métropolitain, connaît de nombreux ratés. Celui d'Ottawa, inauguré en 2019, ne cesse de rompre ses promesses. Les usagers sont excédés.
On a été promis un système fiable, et ça, ce n'était pas ce qu'on a reçu.
À Toronto, on pouvait faire une toute autre expérience en montant à bord du train de la liberté pour souligner la journée de l'émancipation, l'abolition officielle de l'esclavage dans l'Empire britannique et au Canada en 1834.
Parce que ce n'était pas un train physique, c'était un groupe de personnes qui secrètement faisaient passer les gens en sécurité de la frontière américaine jusqu'au Canada.
Une église de la Nouvelle-Écosse est rachetée, son avenir dorénavant assuré.
On va la rouvrir pour le Congrès mondial acadien, qu'on pourra soit avoir partie des réunions de famille dedans, ou au moins qu'un monde pouvait rentrer dans l'église, voir quoi ce que c'est.
Et il est temps de tourner ses yeux vers le ciel pour observer les étoiles filantes, les perséides qui culminent à la mi-août.
Il n'y a pas besoin d'avoir un ciel parfaitement noir, il n'y a pas besoin de se perdre au milieu de la forêt pour arriver à en observer. C'est déjà juste en s'éloignant des centres-villes et en s'éloignant des éclairages publics, c'est amplement suffisant.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci de nous tenir compagnie et bienvenue. On prend d'abord la direction d'Ottawa en Ontario pour vous parler du train léger qui, par ses pannes fréquentes et parfois interminables, ne cesse de frustrer ses usagers. La ligne de la Confédération d'Ottawa est à l'arrêt depuis le 17 juillet, même s'il aurait dû rouvrir le 31, mais les usagers devront attendre au moins la mi-août. Si le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, s'était fait rassurant au sujet de la remise en service du train léger, après une énième panne, il affirme aujourd'hui être à la recherche de solutions permanentes pour remédier aux multiples ruptures de service dont le train est la cible. Le reportage de Marie Hillesse.
Le service du train léger de la Capitale-Nationale est complètement interrompu depuis le 17 juillet. Le service aurait dû reprendre le 31 juillet, mais malheureusement, cette ouverture se fait attendre. La ville d'Ottawa et OC Transpo avaient organisé un point de presse lundi 31 juillet. Dans son discours, le maire, Mark Sutcliffe, avait pris un ton rassurant.
Je sais que je parle au nom de toute l'équipe ici, que nous espérions qu'aujourd'hui serait le début d'une remise en service progressive de la ligne du train léger. C'est dommage que ce n'est pas possible. Je tiens à réitérer les principes qui guident tout ce que nous faisons en ce moment. Tout d'abord, nous donnerons toujours la priorité à la sécurité. Nous ne nous dépêcherons pas pour rétablir le service avant d'avoir l'assurance qu'il serait sûr pour nos passagers. Deuxièmement, nous serons transparents sur ce qui se passe. Je pense que c'est ce que les résidents attendent et méritent. Troisièmement, nous suivons les recommandations de l'enquête, y compris une approche beaucoup plus différente et plus collaborative avec nos partenaires et le conseil municipal. Je vais rencontrer le président d'Alstom dans les jours à venir pour continuer à m'assurer que nous sommes sur la voie d'une solution permanente et que nous aurons le système pour lequel nous avons payé. Je tiens encore une fois à remercier les passagers d'OC Transpo et les résidents d'Ottawa pour leur patience et je vous assure, une fois de plus, que nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas les solutions permanentes et le système que nous avons payé.
La directrice générale des services de transport en commun à la ville d'Ottawa, Renée Amilcar, souligne les trois conditions qui doivent être réunies pour établir le service. Tout d'abord, on doit vérifier que tous les véhicules légers fonctionnent. Six d'entre eux doivent avoir un examen plus approfondi. Deuxièmement, nous devons recevoir un rapport d'analyse des fabricants. Et en troisième lieu, nous devons recevoir la note finale d'Alstom. Laura Schantz est la porte-parole du groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa.
Il y a beaucoup de frustration parmi les résidents maintenant, car c'est il y a toujours le problème depuis 2019, quand le train était lancé. On a vu encore et encore des problèmes, les délais, les déraillements, et maintenant encore, on a entendu qu'il y avait un problème avec les roulements et peut-être maintenant avec les rails aussi. Et d'entendre qu'il y a toujours les problèmes, c'est frustrant parce que on a été promis un système fiable. Et ça, ce n'était pas ce qu'on a reçu.
Pour compenser l'arrêt du train léger, OC Transpo a décidé d'utiliser plus d'autobus lors des heures de pointe.
De se déplacer au centre-ville des banlieues, il y a des gens qui disaient que c'était presque 2 heures pour leur déplacement. Et franchement, c'est un peu trop pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de temps comme ça. Ça signifie qu'ils ont payé avec leur temps. Si les gens ne paient pas, avec leur argent, ils paient avec leur temps. Et aussi de penser aux autobus communautaires, parce que pour avoir un service R1, il faut tirer les autobus des routes communautaires. Il y a toujours la pression sur tous, pas seulement les usagers de trains légers, mais aussi les usagers des autobus.
Laura ajoute un point important.
Pour les personnes en situation d'handicap, les gens qui utilisent les fauteuils roulants, les marchettes, les autres aides de mobilité, pour eux, c'est une situation vraiment difficile parce que la plupart des autobus R1 il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il n'y a pas de place pour s'asseoir ou pour avoir l'espace et un fauteuil roulant. Et donc, il subit les délais encore plus longs pour trouver une place sur les autobus. Ça, c'est quelque chose de très frustrant parce que une des promesses du train léger était d'avoir un service qui était accessible pour tous. Mmh. Et avec les autobus, on a perdu cette accessibilité un petit peu.
Selon elle, les usagers méritent une compensation.
J'ai entendu un peu de discussion sur la gratuité pour une mois ou autre chose pour assurer que il y a un peu de récompense pour les gens qui ont subi tous les problèmes les dernières semaines, car nous savons bien que c'est pas fini. Il y aura au minimum 10 jours encore, peut-être encore plus de ça. Et pour offrir quelque chose pour dire que leurs expériences étaient mauvaises et c'était la faute du OC Transport de la ville d'Ottawa. C'est pas la faute des personnes qui sont obligées de prendre l'autobus ou un train. C'est au fin de la journée, les responsables sont les gens à la ville d'Ottawa. Donc, de dire quelque chose qu'ils sont les responsables, ils remarquent qu'il y a vraiment un problème pour des gens. Il y a vraiment une situation mauvaise et de le corriger d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà choisi ou trouvé des autres moyens de se déplacer. Et de garder nos usagers de transport en commun, il faut offrir quelque chose.
René Amilcar espère une réouverture du train léger d'ici le 14 août, mais selon Laura Chantz, les usagers sont à bout.
On n'a pas beaucoup de confiance à ce point-là. Il y avait déjà des problèmes, il y avait des problèmes différents. Au début, c'était un problème des roulements, maintenant c'est un problème des rails. Y aura-t-il d'autres choses encore?
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Restons sur les rails avec le 10e train de la Liberté qui a quitté la gare de Union Station de Toronto le 1er août dernier à l'occasion du jour de l'émancipation. L'événement qu'organise depuis 10 ans le centre culturel Blackhurst de Toronto a attiré une immense foule de voyageurs et de curieux venus donc rendre hommage à l'Underground Railroad, au chemin parcouru par les esclaves depuis le sud des États-Unis vers la liberté. La journée de l'émancipation, Emancipation Day, est observée au Canada depuis 2021, voté à l'unanimité par les parlementaires canadiens. Le 1er août marque donc désormais le jour où la Slavery Abolition Act est entrée en vigueur à travers tout l'Empire britannique et par le fait même au Canada en 1834. Rappelons que le Canada n'a pas laissé sa place durant l'ère esclavagiste. L'Encyclopédie canadienne note que plus de 4000 autochtones et noirs ont été réduits en esclavage au Canada depuis la colonisation de la Nouvelle-France au début des années 1600 et ce jusqu'en 1834. 1834. La Slavery Abolition Act a ainsi ouvert la voie à la libération de plus de 800 000 esclaves africains et leurs descendants dans des régions des Caraïbes, d'Afrique, en Amérique du Sud et au Canada. La journée de l'émancipation se veut ainsi symbolique et un rappel du rôle joué au Canada et aux États-Unis par les abolitionnistes pour aider les Afro-Américains à fuir l'esclavage via ce que l'on nommait alors la Underground Railroad, le chemin de fer clandestin. On estime que près de 40 000 fugitifs auraient ainsi réussi à trouver refuge au Canada. De Toronto à la gare et sur les rails, Marie Notogali nous propose ce même voyage, mais en immersion sonore.
Currently the Freedom Train. Please feel free to enter the train. This is an express train to Downsview Park subway station. All passengers on the university platform, this is the Freedom Train. This train is running non-stop, no stops, to Downsview Park subway station.
Donc aujourd'hui est le train Freedom, le Freedom Train.
Déjomar Clark, donc, membre du Centre culturel Blackhurst.
Ils étaient à la station Union et nous avons pris le train jusqu'à la station Downsview Park et nous sommes ici. C'est le jour émancipation. Donc, oui, c'est une célébration.
Again, passengers, we would like to thank you for joining us for the annual running of the Freedom Train. This train is non-stop service from Union Station to Downsview Park Subway Station.
Le train, c'était car le Harriet Tubman, elle était un conducteur pour le Underground Railroad, où les esclavages ont pris pour aller au nord du États-Unis ou le Canada. Donc, c'est un train, c'est comme c'est pour reconnaître notre histoire.
Aujourd'hui, nous célébrons l'émancipation qui a eu lieu il y a plus d'un siècle.
Michael Ashley, membre du CA du Centre culturel Blackhurst.
Mais depuis 10 ans, le 31 juillet la nuit, on fait un voyage dans un train du TTC qui sert à commémorer le passage des esclaves qui voulaient trouver la libération au Canada. Et donc, c'est cette idée du passage souterrain en train. Et quand on dit souterrain, on veut dire de façon cachée, parce que ce n'était pas un train physique. C'était un groupe de personnes qui secrètement faisaient passer les gens en sécurité de la frontière américaine jusqu'au Canada. C'est cela que nous faisons de façon symbolique, avec une présence de presque 1000 personnes qui se sont présentées ici, y compris Madame le maire et Monsieur le Premier ministre.
But that freedom is incomplete. We need a freedom from poverty, freedom from oppression, freedom from hunger, freedom from anti-black racism.
Let my people go.
Aïta Sadou, elle est la directrice du Centre Blackers.
So thank you everyone. We're going to ask everyone on the train to go into silence. That is a simple instruction. Welcome aboard the Emancipation Freedom Ride train. We are so hard happy that you are here tonight. The question right now is, why are you aboard this train? What is in your heart and what is in your thinking? What are you emancipating from? We are under the leadership tonight again of Greg Northcott. We thank him for his time and taking us through the journey these years. All the presenters, calling. Could you join me at the front of the stage? Calling. But we ask everyone, whoever you are, whether you're 11 months young or 91 years young, we are asking you all to respect the silence. Ashe, ashe, ashe.
Emancipation Day. This is your Prime Minister, Justin Trudeau. I have to say it is a deep, deep honor for me to be able to join you on this 10th anniversary of the Underground Freedom Train. It is a moment to reflect and to celebrate, a moment to reflect on all those who came before, all those who fought for freedom, all those who have continue to inspire us every day to do more, to stand up stronger, to be better allies, to celebrate the journey we are on as a country, not because we are perfect, but because we commit ourselves every day to do better. C'est un moment de réfléchir et surtout un moment de se commettre tous et chacun à bâtir un monde meilleur dans la vraie compassion et respect les uns des autres. The time to recommit ourselves to the ideals of this country and know that this country has not always been fair or equal to all its people. And as we commit ourselves to better, let us be inspired by the beautiful words, the leaders, the activists, the voices, and the memories that guide us on this train. Thank you all. Happy Emancipation Day.
Après 4 ou 5 ans d'esclavage, où on a apporté des esclaves de l'Afrique jusqu'aux Amériques pour travailler dans les plantations de canne à sucre, il a fallu 400, presque 500 ans pour qu'on puisse avoir l'émancipation officielle et légale, donc avec l'abolition de la traite des Noirs, suivi de l'émancipation. Malheureusement, après l'émancipation, on a dû travailler, je crois que c'est un an ou deux, gratuitement, pour qu'on puisse faire la transition.
Je m'appelle Kyla. Je vais lire un poème. J'ai déjà venu à cette deux fois. Je vais revenir. J'étais très nerveuse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici et c'est I want to say that there's a lot of people here and it's really nerve-wracking. Yeah, I feel proud. I kind of feel happy that I actually did it.
It's 1 o'clock. 1:10. 1:10 to meet you.
Nah, man.
So you have to leave here by 1 o'clock. Be on the platform by 1:10. And that will get you to Union and any cross trains at St. George. If you're here beyond that, it's going to be a long walk home. So please, spread your love, spread your greetings.
Et Et si vous êtes bilingue, par chance, on vous suggère d'écouter sur canada-info.ca l'excellent reportage en anglais réalisé par Hayley DiRizio au sujet de l'exposition d'édredon des codes secrets de la Dalhousie Art Gallery en Nouvelle-Écosse. Ces édredons codés étaient accrochés aux fenêtres ou sur des cordes à linge et destinés justement aux fugitifs de la Underground Railroad pour les guider vers des lieux sûrs ou pour les prévenir de dangers tout au long de leur fuite.
Bonjour, c'est Marine, à Toronto, en Ontario. Vous écoutez Point de vue, l'info locale partout au pays.
Changement de cap, mais pas de région. On reste en Nouvelle-Écosse pour vous parler de l'ancienne église Saint-Bernard, située au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qui vient d'être rachetée par la Nation Prospère Acadie et la société Héritage Saint-Bernard. L'entente a été ratifiée par le diocèse d'Halifax-Yarmouth le 28 juillet dernier, journée de la commémoration du grand dérangement, justement, faite de plus de 8000 blocs de granit. L'église Saint-Bernard se dresse fièrement en bord de mer dans le paysage de la baie Sainte-Marie depuis plus de 80 ans. Ce rachat confirme donc qu'elle sera préservée et restaurée puis rouverte au public en juillet 2024. Daniel Aucoin, posté à Chéticamp, Nouvelle-Écosse, en discute avec Jean Leblanc, président de la société Héritage Saint-Bernard.
Les deux œuvres de bienfaisance avaient entamé en avril dernier les démarches visant à acquérir cet imposant édifice en granit, alors menacé de démolition. Une campagne de financement visant à récolter la somme de 2,5 milliards de dollars a débuté en avril et se poursuivra jusqu'en août 2024. Jean Leblanc, président de la société Héritage Saint-Bernard, nous parle de l'importance de cette acquisition.
C'est beaucoup important parce qu'on avait peur que si qu'on ne l'achetait pas, que l'église allait peut-être être toute défaite, que quelqu'un allait l'acheter puis le vendre pour avoir l'argent des rosses. Et c'est comme ça, lorsque c'est fait, si c'est défait, on n'aura pas un autre de la région, ça sera vraiment bâti de nouveau.
En tant qu'héritier de ce remarquable patrimoine acadien, Nation Prospère Acadie et la société Héritage Saint-Bernard sont fiers d'entreprendre ce nouveau projet de sauvegarde. Jean Leblanc nous explique les prochaines démarches qui seront effectuées dans le cadre du projet.
La première fois que je vais faire, ce serait mettre un toit neuf, parce que ça fait quelques années que le toit fait ça d'affaire. Je vais mettre un toit en acier. Ça durera plus longtemps que nous autres dans les alentours. Puis, essayer dans le monde haut, mettre l'eau de nouveau dans l'église. Maintenant, on n'a pas de puits. Il y a un puits, mais il n'est pas connecté sur l'église. Et après ça, ça sera pour faire une étude de voir ce qu'on pourrait faire dans l'église. On va la rouvrir pour le Congrès mondial acadien, qu'on pourrait soit avoir partie des réunions de famille dedans, ou au moins qu'un mot pour rentrer dans l'église, voir ce que c'est.
La société Héritage Saint-Bernard se dit très contente de reprendre le contrôle de ce monument emblématique le long des rives de la baie Sainte-Marie au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Jean Leblanc indique que la société Héritage Saint-Bernard a travaillé très fort au cours des dernières années pour sauvegarder cette pièce unique d'architecture et d'histoire.
Moi, ça fait presque 2 ans que je suis président à l'Ulster, puis on a eu plusieurs défis. D'une façon, là, c'est de l'autre. La diocèse avait dit, il faut la vendre à la personne ici. Puis après 8 ou 10 mois, ça va échouer. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé dedans. Puis là, ça sortait pour un autre 2 mois. Puis là, ça a échoué. Puis finalement, ils l'ont mis sur le marché. Puis là, comme ça, on avait une grosse demande pour le prix qui était à 250 000. Puis là, on avait peur de ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont l'acheter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Puis là, c'est finalement ces Nations Prospères qui sont mises dans l'œuvre, qui a dû le voyer.
Rappelant que l'organisme de bienfaisance Nations Prospères fut créé en 2018 avec comme mission de jouer un rôle de premier plan dans la protection du patrimoine acadien au Canada Atlantique. En 2022, son comité consultatif sur le patrimoine acadien inscrivait d'ailleurs les églises Saint-Bernard et Sainte-Marie à la baie Sainte-Marie comme lieu d'importance nationale du peuple acadien. Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et c'est le temps ou jamais de tourner ses yeux vers le ciel, non pas pour une petite prière ou attendre l'Armageddon, mais pour se délecter du spectacle céleste que sont les Perséides. Sans aide aucune, on peut, pour autant qu'on ne soit pas en ville, observer cette pluie annuelle d'étoiles filantes et faire tous les vœux qu'on souhaite. Les Perséides sont observables du 17 juillet au 24 août. Le spectacle est à son comble entre les 12 et 13 août. Adèle Gros-Perrin reçoit Guillaume Després, astrophysicien et chercheur à l'Université St. Mary's à Halifax.
Les Perséides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui tiennent leur nom de la constellation de Persée, parce que quand on regarde le ciel à cette période, on voit ces étoiles filantes qui semblent toutes venir d'une même direction, et cette direction se trouve dans la direction de la constellation de Persée, d'où le nom de Perséides. Il y a plein d'autres pluies d'étoiles filantes tout au long de l'année, et elles ont toutes le nom, généralement, de la constellation vers laquelle elles semblent venir, donc les Orionides, les Léonides, etc. Donc les Perséides, elles sont visibles en été, c'est une pluie d'étoiles filantes qui est relativement active. Généralement, c'est entre 60 et 80 étoiles filantes à l'heure. Donc il vaut mieux s'éloigner un petit peu du centre-ville ou aller dans les parcs, s'éloigner de tous les éclairages publics. Il n'y a pas besoin d'avoir un ciel parfaitement noir, il n'y a pas besoin de se perdre au milieu de la forêt pour arriver à en observer. C'est déjà juste en s'éloignant des centres-villes et en s'éloignant des éclairages publics, c'est amplement suffisant. Pendant le temps de l'observation, notre œil met environ un quart d'heure, 20 minutes à s'habituer à l'obscurité. Donc, pour arriver à bien voir le ciel et arriver à avoir le maximum d'étoiles filantes possible, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de regarder toute lumière pendant une vingtaine, trentaine de minutes.
Donc
parce
pas de
que
portable.
Pas de portable, rien. Parce que dès que l'on va regarder une source lumineuse, là, notre œil s'adapte instantanément à l'intensité lumineuse et remet ensuite 20 minutes à s'habituer à l'obscurité.
Il n'y a pas d'horaire particulier pour les observer, mais il faudra peut-être s'armer d'un peu de patience.
Alors, c'est n'importe quand dans la nuit. Bien sûr, plus on va se rapprocher du maximum de l'intensité, moment dans le